comme ton souffle planait sur les eaux.
Cet esprit de louange, je vous invite à continuer ce culte et je vais prier. Seigneur, que ton esprit nous accompagne. Il est bon d'être dans ta présence et de chanter tes louanges, car tu en es digne. Et que tu nous conduises dans la suite de ce culte, que tu nous instruises, que tu viennes toucher nos cœurs et nos esprits au plus profond de nous, aussi par ta parole. Alors que tu ouvres nos cœurs et nos oreilles à ta parole et que tu conduises Anthony dans ce qui nous amène de ta part.
Bonjour, bienvenue à chacun. Merci pour votre accueil. On est très heureux d'être là avec Nathalie, mon épouse, ce matin avec vous. On vient de pas loin, de Gland. On n'a pas mis beaucoup de temps, pas plus certainement que si vous venez de l'autre rive de Genève. Pas beaucoup plus, je pense. On est très heureux ce matin donc d'être là pour vous parler de sagesse divine et de sagesse humaine. Je vais commencer par une citation plutôt osée, et on verra si vous voulez que je continue après cela. Le chef spirituel Bouddha a dit « J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force. » Je peux continuer ? Oui ? Osez, hein, n'est-ce pas, de commencer une prédication avec une parole de Bouddha ? Mais tout ça juste pour souligner quelque chose, pour nous dire que plusieurs chefs spirituels comme Bouddha, Gandhi, remplissent les rayons de nos librairies. Beaucoup. Il suffit d'aller dans une librairie à Genève, vous verrez que beaucoup de notre littérature tourne autour de la sagesse. Et en général, autour de Bouddha, de Gandhi et de ses grands philosophes et de ses grands penseurs. Alors, grand, on va pouvoir en discuter. Parce que la Bible, elle aussi, nous parle de sagesse. Notamment dans un livre, dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament. C'est un livre qui contient plusieurs maximes, plusieurs grandes généralités, pour plusieurs générations, et elles sont pour nous aujourd'hui. Elles nous aident à vivre une vie meilleure aux yeux de Dieu. Alors le passage que nous allons lire est une partie du discours de la sagesse qui est personnifiée sous les traits d'une femme. Alors ceux qui m'ont suivi, oui, original, un trait d'une femme, cette sagesse, et oui, c'est encore osé, n'est-ce pas ? Alors, ce passage se trouve au chapitre 8, et elle prend, donc cette femme prend elle-même la parole pour se présenter. Et donc, je vais vous inviter à lire avec moi Proverbe 8, et nous lirons les versets 22 à 36. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, et vous verrez, on va être invité à une lecture de la parole de Dieu plutôt originale.
L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, car tous ceux qui me haïssent aiment la mort.
Donc après ce beau CV de la sagesse, hein, elle s'est présentée à nous. Elle nous a expliqué d'où elle venait, quelles étaient ses œuvres. Connaître la sagesse est en fait une fin en soi du livre des Proverbes. Et voilà pourquoi elle a tant d'importance.
Mais Anthony, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, ce que la science est capable de faire, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les nouvelles ces dernières semaines, mais on a envoyé une sonde spatiale à 510 millions de kilomètres de la Terre sur une comète. L'homme est capable de faire de grandes choses aujourd'hui. Et même nous, si on veut avoir un projet, acheter une maison, acheter une voiture, est-ce qu'on ne va pas réfléchir d'abord à la taille de la voiture, au terrain qu'on aimerait occuper ? Est-ce que nous, on n'a pas déjà une sagesse qui nous permet d'agir selon ce qui nous semble bon ?
Alors oui, c'est vrai, mais la sagesse dont il est question dans ce texte, ce n'est pas un simple canevas pour nous apprendre à vivre mieux. C'est au-delà de ça. On ne peut pas se passer de cette sagesse. C'est une sagesse qui est bien supérieure à la nôtre, à notre sagesse humaine. Premièrement, cette sagesse nous démontre son ancienneté, son antériorité. Elle existe avant tout, par rapport à tout ce que nous connaissons. Le verset 22 du texte que nous avons lu nous dit que Dieu l'a créée avant ses œuvres les plus anciennes. La suite du texte, avec des mots assez forts qui sont employés, marque encore cette antériorité. On a les mots « depuis », « avant l'origine », « dès », « quand il n'y avait point », « avant que », etc. Cette sagesse était bien avant toute chose. Rien ne la précède. Ses œuvres font tout écho au récit de la création, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont remarqué, de Genèse 1 et 2. On a par exemple la séparation des cieux d'avec la terre, la délimitation d'une voûte au-dessus de l'abîme, la limite aux eaux qui ne doivent pas recouvrir la terre, etc. Deuxièmement, cette sagesse est impliquée dans la création. Cette sagesse n'est pas une simple spectatrice de cette création, elle participe pleinement à l'ouvrage. Pourtant, si vous avez remarqué, l'acte de création vient toujours de Dieu, dans le texte, non de la sagesse. Il fait la terre, Dieu, il dispose les cieux, il fixe les nuages. Tous ces verbes n'ont pour sujet que Dieu. C'est lui qui réalise toutes ses œuvres. En même temps, le verset 30 nous rappelle que la sagesse était là, aux côtés du Créateur, comme un maître d'œuvre. Cette sagesse est donc une collaboratrice de l'œuvre de Dieu. Et la vidéo que nous venons de voir nous a rappelé combien cette création est belle. Et elle nous dépasse de loin. Si vous imaginez la plus petite chose, la plus grande chose la plus froide, la chose la plus chaude que vous pourrez créer, elle sera toujours qu'une pâle copie de la création de Dieu. Cette création de Dieu nous dépasse de loin et elle est magnifique. Alors, pour répondre à ta question, Nathalie, c'est vrai que la sagesse humaine a toute sa valeur, hein, et elle permet des exploits, mais la sagesse qui est présentée dans notre texte dépasse cela et de loin. Troisièmement, les versets 30 à 31 constituent un véritable tournant dans notre passage. La sagesse devient à ce moment-là sujet des actions. On assiste alors à des choses vraiment magnifiques, notamment l'inclusion des humains, alors que le texte jusque-là ne parlait que de la création du cosmos, de la terre, de la mer. Remarquez que c'est cette sagesse elle-même qui nous inclut dans le plan de la création. Dans le verset 31, on voit la sagesse jouer avec la terre et trouver ses délices parmi les humains. Alors, si on résume jusqu'ici, on s'aperçoit que la sagesse, premièrement, elle est antérieure à toute chose, comme Dieu, qu'elle participe à la création aux côtés de Dieu, et en quelque sorte, ces deux points démontrent la supériorité de la sagesse dont il est question. Et si on remarque, il ne s'agit pas ici d'une sagesse terrestre ou humaine, mais en fait d'une sagesse divine. Elle est en fait clairement identifiée à Dieu dans notre texte. Elle nous précède et elle nous dépasse de loin. Alors, en considérant que cette sagesse est une sagesse divine, on peut revenir sur deux points qui sont vraiment interpellants dans notre texte. Le fait que cette sagesse joue avec la terre et qu'elle trouve ses délices parmi les humains. cette sagesse qui joue avec la terre. Quelle nouvelle conception, quelle belle conception de voir ce Dieu, cette sagesse, donc divine, hein, je l'ai dit, qui joue avec la terre. On a souvent une conception d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui sort tout droit de l'EPFL de Lausanne et qui a créé la terre sous terme d'équation, tout est carré, tout est bien droit, etc. Alors c'est vrai, la création est belle, elle est harmonieuse. Pour autant, avons-nous la conception d'un Dieu créateur qui joue avec la terre, qui prend son plaisir avec sa création? Voilà là peut-être une piste pour renouveler notre conception de notre Dieu créateur. Autre point, l'homme semble être au sommet de la création. Il est le point culminant de cette création. Alors là encore, avec les échos que l'on voit du texte de Genèse 1 et 2, rappelez-vous que lorsque Dieu crée, il voit au fur et à mesure que les choses sont bonnes, nous dit le texte biblique, et quand il arrive à l'être humain, à l'homme, l'homme avec un grand H, hein, homme et femme, hein, il les créa, il dit que cela fut très bon. Nous sommes le sommet de cette création. Et Dieu prend plaisir à être avec nous. Il nous a créés comme étant des vis-à-vis. Et il prend plaisir, il joue avec sa création et prend plaisir avec l'homme.
Avec ce que tu dis, on s'aperçoit que la sagesse avait un rôle important à la création. Et quelque part, c'est quand même un concept qui nous parle aussi de savoir que la création a été faite avec sagesse et que Dieu y a trouvé du plaisir, qu'il a trouvé son délice à créer notre monde. Mais finalement, j'ai encore une question, et je pense que peut-être d'autres dans la salle se la posent aussi. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que cette sagesse, ça nous concerne encore?
Alors, on va voir ça dans la suite du texte. « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. » Là, on ne peut pas rester passif. Hein, là, clairement pas, un appel nous est directement adressé. Alors vous allez me dire, mais c'est pas ce qu'on faisait avant d'écouter? Peut-être, mais c'est une autre écoute qui est requise maintenant. Ce n'est pas une simple écoute de l'ouïe, de l'oreille, mais c'est une écoute attentive, une écoute qui mène à l'action. Les conseils de la sagesse viennent dans la suite du texte, donc versets 33 et 34 que je relis. « Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction. » Pour devenir sage. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Alors c'est vrai qu'une écoute contemplative mène vers la sagesse. Et lorsqu'on regarde ce qu'on trouve en librairie, c'est surtout cette écoute contemplative qui est valorisée. La sagesse, c'est rester passif, écouter, se tourner vers la vie, tout simplement. Alors c'est vrai qu'il y a, derrière la sagesse, même biblique, il y a une certaine écoute, c'est vrai. Mais nous sommes aussi invités à devenir nous-mêmes sages en agissant. Et c'est là que le texte biblique se distingue de n'importe quelle autre philosophie humaine, vraiment. La sagesse n'est pas que passive, elle mène à l'action.
Alors Anthony, moi je pense que j'agis selon une certaine sagesse. Et je connais quelques personnes dans l'Assemblée, je sais qu'on n'a jamais commis de meurtre, par exemple. Moi non plus, je vous rassure. Et puis j'espère que la plupart d'entre nous, on respecte les 10 commandements dans la mesure de nos possibilités. On essaye en tout cas d'avancer vers ça. Alors finalement, qu'est-ce que Dieu attendrait de nous pour que nous soyons vraiment considérés comme sages à ses yeux?
Alors, une personne a posé la même question dans la Bible. Particulièrement dans le Nouveau Testament, un jeune homme riche qui disait respecter les 10 commandements, honorer son père et sa mère, et Jésus lui a demandé de donner tout ce qu'il avait. Étonnant, n'est-ce pas? Alors, rassurez-vous, l'idée n'était pas de déposséder cet homme à tout prix et de dilapider tous ses biens en tant que tel, en soi, mais de l'encourager à la générosité. Et très concrètement, pour rebondir à la vidéo et à ce qui nous a été présenté en ce début de culte, dans cette période de fête, on pourrait être aussi invité à devenir sage de la manière suivante. Alors, face à l'écoute contemplative, et c'est aussi une part importante du message biblique, C'est veiller sur nos paroles, nos réactions, être à l'écoute, manifester les fruits de l'esprit, en gros. Mais aussi, ça peut être aussi, dans cette période des fêtes, inviter un voisin, un collègue, dans le besoin ou qui est seul. Se remettre en question aussi par rapport à notre générosité en tant que chrétien. Donner un sandwich à un sans-abri. Ça peut être manifester un moment de tendresse, un moment où on prend un moment, on prend du temps avec des personnes qui sont dans le besoin. Et effectivement, c'est vrai que si on n'a pas d'argent ou quoi, manifester simplement un moment, donner un temps à une personne, ça peut être vraiment quelque chose de beau. Alors, à moi de te poser une question maintenant, Nathalie. Est-ce que la description de cette sagesse que l'on vient de lire dans Proverbe 8 te fait penser à quelqu'un en particulier dans la Bible? Est-ce qu'on ne pourrait pas identifier cette sagesse à la lumière du Nouveau Testament?
J'ai bien une petite idée, mais je me demande qu'est-ce que pensent nos amis. Est-ce que vous avez une réponse?
Jésus. Probable, c'est ça. Je vous invite juste à lire le prologue de l'évangile de Jean. « Au commencement était la parole. » Donc Jean 1, versets 1 à 4, pardon. « Était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Alors, il y a comme une étrange ressemblance entre le texte que nous venons de lire et le texte de la sagesse en Proverbe 8. La parole était premièrement dès le commencement, elle était avec Dieu, troisièmement, elle participe à la création et elle porte la vie. Lisons encore le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. »
Alors si je peux résumer un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour voir si j'ai bien suivi, cette sagesse qui est présentée dans les Proverbes, elle est identifiée en fait à la parole qui est présentée dans le prologue de Jean. Et cette parole, justement, c'est Jésus-Christ. Donc la sagesse de Dieu, c'est accepter qu'il a envoyé son Fils sur terre et que celui-ci est mort pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et si on accepte la venue de ce Fils, on accepte aussi de faire la volonté de Dieu et de suivre sa volonté pour nous. Est-ce que c'est ça la sagesse selon Dieu ?
Alors, pour revenir aux paroles de Bouddha, la sagesse telle qu'elle nous est présentée dans la Bible, ce n'est pas d'être impassible et tolérant en toute situation, pas forcément. C'est aussi et surtout se mettre en action pour conformer notre vie à la volonté de Dieu. Voilà là toute la différence. Et il y a toute une dimension éthique du bien faire que la Bible nous présente, qu'on pourrait développer. Et c'est pas toujours évident dans un monde sans repères, dans un monde où qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Pas toujours évident de se mettre en action pour le bien. Et moi, c'est une dimension personnellement qui me frappe ces derniers temps. On insiste sur beaucoup de choses, mais comment se comporter en tant que chrétien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être un chrétien en mouvement pour le bien dans notre monde? Là, je pense qu'on a toute une dimension à redécouvrir peut-être dans la parole de Dieu, qui est celle de l'éthique. Comment se comporter en tant que bon chrétien, quelque part, entre guillemets? Et comment devenir ce chrétien qui fait toute la différence, au final? C'est être ce chrétien, et c'est aussi faire. On l'a dit, c'est être à l'écoute, être manifester les fruits de l'esprit, mais c'est aussi faire. Alors c'est tout cet équilibre entre l'être et le faire. Et la sagesse de Dieu, elle ne peut pas être dissociée entre l'être et le faire. C'est être un bon chrétien, mais c'est faire aussi en tant que bon chrétien. Les deux doivent être côte à côte, on ne peut pas vraiment les dissocier. Alors, c'est certes un chemin sur lequel on est tous, et un chemin que Jésus a lui-même incarné, puisqu'il est cette sagesse parfaite, et lui-même nous accompagne et nous permet de progresser. Alors, c'est l'apprentissage de toute une vie, je ne vais pas venir vous faire la morale, c'est pas mon rôle ce matin. Mais on est peut-être tous invités, dans cette période de l'Avent, dans cette période de fête, à faire un pas en avant dans cette direction. Allez, tiens, je nous lance le défi. Peut-être, dans cette période des fêtes, de trouver une action concrète, quelque chose, une œuvre de charité, dans laquelle nous investir. Ça peut être donner de notre temps, donner notre argent, mais que nous puissions, peut-être, dans cette période de fêtes, qui annonce quand même la venue du Dieu avec nous, de manifester notre générosité. Que le Seigneur nous aide vraiment à grandir en sagesse et à nous modeler à son image, lui qui l'a pleinement incarné. Il est venu nous montrer ce chemin de vie. Qu'il nous aide, ce Seigneur, à progresser. Amen.